J'ai entendu parler, alors j'étais venu pour prendre mon livre.
Quel livre ?
Celui que j'ai laissé sur la cheminée avant-hier.
C'est cela, la littérature ?
On en fait jusqu'au dernier moment. Tant qu'on est vivant, tout est prétexte à littérature.
C'est un bon livre ?
Je demande à Patricia oui ou non, et après...
Les critiques littéraires sont des cactus qui vivent de leurs piquants, parmi les vautours qui vivent de leurs plumes.
Bienvenue dans ma bibliothèque. Aujourd'hui, il sera question de soleil trompeur, de tragédie méditerranéenne et d'espoir, peut-être. Je vous présente « L'été circulaire », un roman de Marion Brunet. « L'été circulaire » est paru chez Albin Michel en 2018. Il a obtenu plusieurs récompenses, dont le Grand Prix de littérature policière. Marion Brunet est également l'autrice de romans aussi bien en littérature jeunesse qu'en littérature adulte. On peut par exemple citer « Vanda », paru en 2020. Les romans Vanda et L'été circulaire ont pour point commun d'être baignés à la fois de chaleur aveuglante et de noirceur. Nous sommes en effet dans le sud, près de Cavaillon, dans le Vaucluse, et cet été promettait normalement pour les deux sœurs adolescentes, Céline et Johanna, d'être semblables à tous les autres étés, retrouver le délice et l'ennui des manèges de la fête foraine. Et pourtant, le soleil est trompeur, la tragédie à venir est là, en germe dès les premières lignes de la première page du roman. Chez eux, se souvient Johanna. Une main au cul, c'était un truc sympa, une façon d'apprécier la chose, de dire « t'as de l'avenir ». À mi-chemin entre une caresse et une tape sur la croupe d'une jument. Les filles avaient des atouts, comme au tarot, et on aurait pu croire que si elles jouaient les bonnes cartes au moment adéquat, il y avait moyen de gagner la partie. Mais aucune d'elles, ni Jo, ni sa sœur Céline, n'a jamais gagné aucune partie. C'était mort au départ. À tout ou à pas, elles pouvaient s'asseoir sur l'idée même du jeu, vu qu'elles n'avaient pas écrit les règles. Ce soir, Céline, c'est pas une main au cul qu'elle se prend, c'est une main dans la gueule. Le père, fou de rage, s'en étouffe à moitié. Déjà qu'il n'a pas beaucoup de vocabulaire, là, c'est pire. Il retourne la tête de sa fille de son énorme paluche de maçon. Elle s'écroule sur le sol de la cuisine, un tas de tissus mouillés. Ça fait un bruit bizarre, comme si des petits bouts d'ailes s'étaient brisés. C'est qui ? C'est qui ? C'est bien là que se noue la tragédie. Parce que Céline a 16 ans et Céline est enceinte. Céline est très attirante, elle a eu de nombreux petits amis. Il y a donc un certain choix pour imaginer qui est le père potentiel. Voilà le portrait que fait l'autrice de la jeune fille. Les mêmes se sont retrouvés, comme chaque année, bancs des familles qui s'ignorent ou se fondent dans la friture et le chaos des animations. Une fois par an. C'est vrai qu'il y a aussi la Saint-Jean et la kermesse de l'école, mais la fête foraine, c'est le mieux. Céline a toujours aimé ça, reine de la fête, adulée des garçons, toute bande confondue. Même quand elle était plus jeune, il y avait les coins d'ombre où se laisser glisser contre le corps d'un petit ami, jouer à ne pas aller plus loin mais s'arrêter tout au bord. Eux rêvaient de ses doigts aux ongles roses sur leur petit pénis dressé. Elle serrait amoureusement de grosses peluches gagnées à la carabine en espérant des mots d'amour. Et s'il fallait se laisser tâter maladroitement les seins pour obtenir de pauvres « je t'aime » balbutiants et autres dérivés sans imagination, elle était prête. Elle voulait bien, un peu. Céline refuse donc obstinément de dire à qui que ce soit l'identité du père, ce qui est une humiliation absolue pour ses parents. En effet, la mère de Céline, Séverine, a été enceinte d'elle à peine plus vieille, elle est donc grand-mère à 34 ans, et le père Manuel, un maçon d'origine espagnole, ne parvient pas à passer par-dessus cette honte, lui qui est déjà honteux de ses origines, justement. Il a toujours l'impression d'être l'étranger dans ce village du sud xénophobe. Manuel est violent et lui-même raciste, et toute sa violence, toute sa frustration vont se concentrer dans cette question qui est donc le père de l'enfant de sa fille Céline. Les deux parents s'enfoncent dans l'alcool et dans la dépression. Cette descente aux enfers précipite la tragédie. N'oublions pas que le roman a été publié en littérature policière. Alors je vous laisse découvrir les rouages de la machine infernale, la montée inexorable vers la violence ultime. Le lecteur, la lectrice se demande jusqu'où Manuel ira quand il aura découvert ou quand il croira avoir découvert qui est le père de l'enfant de Céline. Mais la fatalité, ce n'est pas seulement celle de l'engrenage de la violence. Il s'agit aussi de la fatalité sociale, bien sûr. Et on s'interroge. Les deux jeunes filles, Céline et Jo, vont-elles réussir à s'échapper de cette inexorable reproduction ? Elles se le demandent également. Elles mangent en silence, espérant vainement qu'un souffle d'air entre par la fenêtre. Mais la nuit reste moite. La voix du père monte jusqu'à elles, sans qu'elles saisissent les mots. « Jo ?
Ouais.
On sera jamais comme eux, hein ? Jo ne répond pas tout de suite, elle hésite, pèse la propos d'une réponse trop lucide. Dans le doute, elle choisit un demi-mensonge. Non, jamais. Alors pour Céline, eh bien, c'est vrai, ça semble mal parti, mais le personnage de Jo, sa sœur, est bien différent. Et peut-être qu'on peut dire qu'elle incarne finalement une forme d'espoir. Jo est une fille dure, fière, lucide aussi. Elle s'intéresse au théâtre, elle va même au Festival d'Avignon. Et là, un nouveau monde s'offre à elle. Après avoir vu une pièce de théâtre, elle discute avec une jeune fille nommée Garance et Jo prend en pleine figure le fossé culturel qui existe entre elles. La fille parle de la pièce et d'une autre qu'elle a lue. « Une merveille, est-ce que Johanna connaît ?» Elle s'appelle Garance. Jo a un peu mal au bide. Elle ne sait pas quoi dire et s'agace de trouver ça gênant. Elle voudrait s'en foutre, comme elle se fout des bourges d'habitude. Mais les connasses de son collège qui montent à cheval le mercredi après-midi n'ont pas lu Edward Bond. Et elle pointe soudain ce malaise incertain, la déchirure qui laisse entrevoir que le fric ouvre un autre monde que celui des bagnoles de luxe et des vacances à l'étranger. C'est pas la première fois, mais ça s'incarne soudain par les mots de cette fille. Son engouement jumeau du sien, mais bien mieux nourri. Johanna se sent trahie. Il ne faudrait pas imaginer toutefois que l'été circulaire présente la famille de Jo comme un milieu dont il faudrait, entre guillemets, sortir. Je trouve que le questionnement sur la culture et le milieu est traité avec beaucoup de finesse. Dans une interview donnée sur La Grande Librairie, le 20 avril 2018, Marion Brunet décrit ainsi le personnage de Jo. Elle engrange les premiers outils qui vont lui permettre de naviguer entre plusieurs univers et plusieurs milieux. Parce que les parents de Jo sont avant tout des êtres humains. Et même si je trouve le personnage de Manuel absolument horrible, je ne peux qu'éprouver de l'empathie face à sa souffrance et à son désarroi qui sont extrêmes. Je ne vous dévoile rien de l'intrigue si je vous dis que le roman se termine l'été suivant, à nouveau à la fête foraine, près du manège. Alors, ce manège, est-ce que c'est la boucle infernale d'un été circulaire infini? Une mauvaise pioche dans un tarot de Marseille? Une roue de la fortune à la fois capricieuse et impitoyable? Ou est-ce qu'il est possible, au moins pour Jo, de sauter du manège et de s'échapper de l'été circulaire? Alors si vous voulez éprouver pitié et terreur comme dans les tragédies, vous pouvez donc lire « L'été circulaire » de Marion Brunet et vous pouvez retrouver cette chronique sur urban-radio.com.